Éric Emmanuel Schmitt, quand on vous écoute, on sent aussi qu'il y a cette partie aussi de doute qui est toujours là, parce qu'on n'est pas tout clair et tout obscur. Il y a ces contradictions, ces ambiguïtés même chez nous.
Je dirais que je suis double. C'est-à-dire que d'un côté, il y a mon cœur qui croit, et il croit toujours. Et ce cœur qui croit, il a assez peu de silence et assez peu d'interruptions. Parfois, quand je suis vraiment scandalisé par la disparition d'un être que j'aime ou par la maladie qui peut toucher certaines personnes ou par le fait qu'un enfant est arraché à sa promesse de vie par la mort ou par la maladie ou par une infirmité, j'entends mon cœur qui continue à croire, mais je le trouve un peu silencieux. Mais c'est toujours là. Mais de l'autre côté, il y a l'esprit rationnel. Et l'esprit rationnel, il est dans l'interrogation. Car pour moi, croire et savoir sont vraiment deux choses distinctes. Ce que je crois n'est pas ce que je sais. Qu'est-ce que nous avons en commun tous, croyants, athées ou indifférents? Nous sommes habités par les mêmes questions. La question du sens, la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Quel est le sens de notre présence? Comment doit-on aimer? On a tous ces mêmes questions. On y répond de façon différente. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse rationnelle. C'est-à-dire, cette si belle chose qu'est la rationalité, que l'homme a inventée pour lier ensemble les hommes, puisqu'au fond, la rationalité, c'est la volonté d'unir les hommes par l'universalité de la raison. Cette si belle chose qu'est la rationalité, malheureusement, elle ne s'exerce pas sur tous les champs de notre existence. Il y a des champs entiers qu'elle laisse intacts. Et le problème, je dirais que c'est même les questions les plus intéressantes qui n'ont pas de réponse rationnelle. Et là, dans ces questions-là, nos réponses, elles sont d'un tout autre ordre. Elles sont les réponses du cœur, de l'imagination. Elles sont la vibration des valeurs que nous faisons vivre à l'intérieur de notre esprit. Donc dans ce champ-là, il n'y a pas de certitude. Il y a des choix, il y a des options, ou il y a des héritages, ou il y a des adhésions. Dans le champ de la rationalité, on peut arriver à certaines réponses, mais sur des questions presque essentielles, je dirais, on reste sur le mode du peut-être. Et tandis que dans l'ordre du cœur, on peut faire vivre des valeurs, faire vivre le christianisme si on l'a entendu.
Vous avez dit aussi, Éric Emmanuel Schmitt, dans des interviews, quand on vous entend, que vous êtes un Christophe Colomb de vos terres intérieures. Est-ce que ça rejoint ce que vous venez de nous dire ?
Oui, quand je dis que je suis un Christophe Colomb, par exemple, de mes livres ou de mes terres intérieures, c'est-à-dire que je découvre au fur et à mesure le sens de ce que j'écris. J'ai pas prévu d'écrire telle ou telle chose, que mon œuvre prenne tel ou tel mouvement. Ça se constitue au fur et à mesure et je me rends compte que je tire sur un fil et que la route est totalement cohérente.
Est-ce que c'est ça ce que vous dites quand vous dites que ça vous dépasse ?
Mais moi, j'ai le sentiment absolu d'être dépassé et je serais d'ailleurs inquiet si quelqu'un me disait qu'il ne se sentait pas dépassé. Parce que pour moi, la vie reste un mystère. Mais qu'est-ce que j'aime ce mystère ? C'est-à-dire que avant, lorsque je ne croyais pas ce mystère, je l'habitais avec angoisse. Je me réveillais avec des sueurs froides. J'avais d'intenses frissons, j'avais des découragements. J'ai été aux portes de la dépression dès mon adolescence parce que le sens des choses ne m'apparaissait pas et je doutais qu'il y en ait un. Je prenais l'absurde pour à la fois une question et une réponse. Et je vivais donc dans un monde que je croyais absurde. Et c'était profondément inconfortable, angoissant. Et je dirais, il y a une perte d'énergie et une perte d'amour et de créativité énorme. Et puis après cette nuit au désert, j'ai continué à habiter le mystère, mais avec confiance. C'est-à-dire, quand je ne sais pas, je sais que c'est moi qui ne sais pas. Mais qu'il faut que je fasse crédit. Lorsque je ne comprends pas, je m'en prends à moi-même. Je ne m'en prends pas à Dieu ou à l'univers. Quand je pense à la mort, je ne sais rien de la mort. Mais rien du tout. Mais j'ai confiance, puisque avec le cadeau de la vie m'est venu le cadeau de la mort, c'est le même cadeau, je prends tout. J'aborde l'inconnu avec confiance. Donc, je suis complètement dépassé, mais c'est merveilleux d'être dépassé. C'est-à-dire d'appartenir à quelque chose d'immense, d'infiniment plus grand que soi. Une mer, un océan qui me dépasse. Je crois qu'il n'y a rien de plus réconfortant que de se sentir tout petit, dans un univers immense, se sentir minuscule dans un univers majuscule, moi, ça me réconforte. Il y a un instant d'effroi et tout de suite derrière le réconfort.
Est-ce que cette sensation de réconfort vous est aussi donnée dans la musique ?
La musique parle au plus profond de l'âme pour moi. La musique, c'est l'intime de l'intime. La musique me fait à la fois croire en l'homme et croire en Dieu. Vous savez, c'était Malraux qui disait quand il entendait du Mozart, il était prêt à croire en Dieu. Moi, quand j'entends du Mozart, je suis prêt à croire en l'homme. Parce que je me dis, mais les hommes sont aussi capables de ça? Voilà, dans les hommes, il peut se fabriquer aussi bien Mozart que Hitler ou Sœur Teresa. Eh bien, essayons d'aimer les hommes ou surtout d'aimer ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Certains musiciens, pour moi, sont carrément des guides spirituels parce qu'ils sont capables de me changer complètement mes sentiments, mes humeurs. Il y a eu des moments de ma vie où, par exemple, j'avais perdu un être et j'arrivais pas à... En fait, je refusais d'y penser pour ne pas m'effondrer de chagrin. Donc, je ne commençais même pas le deuil. Et j'étais sec. Et je me disais, mais comment je peux avoir aimé autant et puis ne rien éprouver. En fait, mon esprit me protégeait de mon émotivité. Et puis un jour, j'ai entendu un concerto pour violon de Mozart. J'ai fondu en larmes et j'ai commencé à faire le travail du deuil. J'ai commencé d'abord à repenser positivement à cette femme et puis à pleurer enfin et puis à accepter non seulement que sa mort soit arrivée, mais que j'ai vécu tant de bonheur avant. Vous voyez, c'est la musique qui m'a redonné la sensibilité que j'avais absolument perdue. Alors les musiciens, ce sont des guides spirituels, ce sont des gens qui viennent vous fouiller au plus profond et faire revitaliser ce qui est mort, vous donner de l'allégresse quand vous n'en avez pas. Les musiciens sont même capables de nous faire aimer la tristesse, par exemple. Schubert m'a fait aimer la tristesse parce qu'il la rend belle. Pour moi, Schubert m'a fait accepter que dans une vie, il y ait des moments de tristesse. Schubert est un alchimiste de la tristesse, c'est-à-dire qu'il la transforme en beauté. Il nous fait comprendre que la tristesse est universelle, c'est-à-dire que tout homme va traverser des moments tristes et qu'il faut intégrer ça au tissu de nos jours. Le bonheur, ce n'est pas se mettre à l'abri du mal ou de la tristesse, le bonheur, c'est incorporer la tristesse, la douleur dans nos vies. Et ça, c'est une leçon que m'a fait comprendre Schubert. Quand j'entends une musique triste de Schubert, je me dis, tiens, lui aussi, il a connu la tristesse. Ah oui, mais lui, il en fait quelque chose, tandis que moi, je n'en fais rien. Et il la transforme en beauté pour dire, voilà, l'existence, elle a aussi ça. Et il faut l'aimer, l'existence, avec cette dimension-là. Moi, j'ai pris de grandes leçons de philosophie avec les musiciens.
Vous dites, il faut aimer l'existence avec cette dimension-là. Et à d'autres moments aussi, vous avez eu cette perception qu'il fallait non plus être Claudel ou Sacha Guitry, oui, mais qu'il fallait que vous soyez vous, oui, Éric Emmanuel Schmitt. Je crois que ça fait partie aussi de tout ce combat,
oui,
accepter...
D'être ce qu'on est, ouais, et après essayer de l'être au meilleur niveau. Quand j'avais 20 ans, et j'écrivais déjà, mais j'écrivais des choses que je n'ai jamais publiées et que je ne publierai jamais, parce que je me cherchais. Et je pensais que j'étais un grand lyrique. Et comme j'admirais Paul Claudel, je me disais Claudel ou rien, comme Victor Hugo a pu se dire Chateaubriand ou rien, enfin comme tout écrivain ou écrivaillon, soudain coup se définit par rapport à un modèle. Je faisais des efforts désespérés pour essayer de ressembler à Claudel. Et un jour, une amie me dit, mais à qui je donne à lire ces textes, me dit, mais tu voudrais être Claudel, mais si tu étais Sacha Guitry. C'était insolent et intelligent. Insolent parce que je n'aimais pas beaucoup Sacha Guitry, donc elle me mettait sous le nez un auteur que je n'idolâtrais pas du tout comme Claudel. Et c'était profondément intelligent parce qu'elle me disait, sois toi-même, deviens ce que tu es. À ce moment-là, je suis parti à la recherche de l'écrivain que j'étais et de l'homme que j'étais. Ça m'a pris longtemps. Il a fallu 10 ans, il a fallu le désert, il a fallu la foi, il a fallu cette unification totale de mon cœur, de mon corps, de mon esprit, que m'avait donné la nuit au désert pour... enfin trouver quelle était ma voix propre. En plus, j'avais un don d'imitation, je pouvais imiter n'importe quel style. Je peux toujours d'ailleurs aujourd'hui, souvent je fais ça pour les amis, pour les anniversaires, pour les mariages, les occasions. Je leur écris un compliment à la façon de Chateaubriand, de Proust, de Sartre. C'est terrible d'être doué comme ça parce que quelle est ma voix? J'imite toutes les voix, mais quelle est ma voix? Et je me disais, comme Cocteau, à force de faire le caméléon, on finit par mourir d'étouffement sur une couverture écossaise. Je me disais, je vais crever sous toutes ces influences. Et voilà, au bout du chemin, il y avait ma voix, qui n'était pas forcément celle que je voulais avoir. C'est-à-dire que moi, mon écriture essaye d'être le plus limpide possible, le plus souple possible, le plus simple possible. Et la simplicité, ça demande un grand travail. Il ne faut pas confondre la simplicité et le simplisme. Hein. La simplicité, c'est la résolution des difficultés. Le simplisme, c'est l'ignorance des difficultés. Donc moi, j'essaye plutôt d'arriver à la simplicité, donc en essayant de résoudre les difficultés. Et l'écrivain que j'étais n'était pas forcément celui que j'avais rêvé d'être, mais il existait. C'était celui-là. Et donc, j'ai rejoint ma voix.
Vous avez dit « je me cherchais ». Aujourd'hui, vous ne diriez pas ça.
Non. Aujourd'hui, je cherche les autres. Écrire, pour moi, c'est épouser la complexité de l'univers. C'est devenir les autres. C'est comprendre l'autre sexe. C'est avoir d'autres âges. C'est vivre dans d'autres époques. C'est aimer de façon différente. c'est vivre avec de tout autres valeurs que les miennes. Par exemple, quand j'ai commencé ce cycle de petits textes que j'appelle le cycle de l'invisible, dans lequel j'ai écrit Milarepa sur le bouddhisme tibétain, ensuite Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran sur l'islam soufiste, Oscar la Dame Rose, bien sûr, avec le christianisme, L'enfant de Noé, avec la rencontre du judaïsme et du christianisme, et puis dernièrement, Le Sumo, qui ne pouvait pas grossir, qui est sur le bouddhisme zen. Eh bien, j'allais à la rencontre de religions qui, à part le christianisme, n'étaient pas les miennes. Et l'intérêt, c'était justement d'arriver à comprendre comment on vit sous ce regard-là, et de le regarder avec intérêt, curiosité et respect. Et donc maintenant, écrire, c'est aller à la découverte des autres.